VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Crise au Burundi, tir nourri et jet de grenades dans trois quartiers de la capitale Bujumbura dans la nuit de jeudi à vendredi. Des violences qui ont fait au moins 3 morts et plus de 12 blessés selon le porte-parole de la police burundaise et qui se produisent au moment où une délégation des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU séjourne au Burundi depuis hier pour promouvoir le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
La séance a démarré à huis clos sur ordre du président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kazama. 41 députés du parti de la Rénovation sociale, la formation d'opposition et 15 dissidents du PAIGC étaient présents. Ces 15 députés ont été exclus du parti au pouvoir pour s'être abstenus lors du vote sur la déclaration de politique générale du nouveau premier ministre Carlos Carrera. Une nouvelle séance lundi a failli tourner à la foire d'empoigne. Depuis hier, le pays a de fait 2 parlements et 1 gouvernement. La veille, l'ex-premier ministre Domingo Simoes Pereira, limogé en août 2015 par le chef de l'État José Mario Vaz, a dénoncé un coup d'État orchestré à partir de la présidence. Il avait appelé les militants à s'éteindre prêts à défendre la victoire conquise par les urnes. L'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne, très inquiètes, appellent au dialogue dans ce pays instable qui a déjà connu plusieurs coups d'État.
Il s'agissait de la situation en Guinée-Bissau. Nous avons eu quelques problèmes techniques. Revenons maintenant aux détails de la situation au Burundi avec Christophe Nkurunziza.
Les quartiers contestataires de Chibitoke, Bissau, Terere et Mutakura ont été jeudi soir le théâtre de violents affrontements entre la police et des hommes armés que la police qualifie d'insurgés posant des actes de terrorisme. 3 personnes ont été tuées, c'est selon Pierre Mourikier, porte-parole de la police. Il a également fait état de 12 personnes blessées, tandis que 2 personnes ont été arrêtées. Les enquêtes pour connaître s'il y a eu une relation entre ces violences et la venue pour la 2e fois en une année du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies au Burundi ont débuté, selon la police qui éclaircira la situation après enquête. Entre-temps, les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies continuent à s'entretenir avec les autorités burundaises, l'opposition et la société civile. Pour Hervé Latsou, chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la situation se détériore de jour en jour et les mois de novembre et décembre derniers ont vu une augmentation significative des violences et des assassinats dans ce petit pays de 27 834 km² qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Les Nations Unies auront beaucoup à faire au Burundi, surtout qu'un groupe armé présidé par l'ancien putschiste général Godefroy Niyombare, les forces républicaines, a vu le jour. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Un cadre des forêts boues, les forces républicaines du Burundi, a dit à l'AFP sous couvert d'anonymat que les attaques de la nuit passée contre la police à Bujumbura visaient à montrer au Conseil de sécurité de l'ONU que le Burundi était déjà dans la guerre. Burundi toujours, des consultations sont prévues à Gitega, 100 kilomètres à l'est de Bujumbura, entre la délégation du Conseil de sécurité et le président burundais Pierre Nkurunziza. Les 15 diplomates du Conseil ont déjà eu des entretiens dans la matinée avec le ministre des Affaires étrangères Alain Nyamitwe, le vice-président burundais Gaston Simdimro et des représentants de la société civile, dont les principaux acteurs sont en exil. L'objectif des visiteurs, convaincre les autorités burundaises d'autoriser le déploiement d'une force africaine à laquelle Bujumbura s'oppose jusqu'à présent catégoriquement, et reprendre aussi les pourparlers avec l'opposition. Au Burkina Faso, un dépôt d'armes et de munitions de l'armée burkinabé près de Ouagadougou a été attaqué aujourd'hui. Selon un communiqué de l'armée, aux environs de 3 heures, heure locale et temps universel, une tentative d'incursion n'ayant fait aucune victime a eu lieu au niveau du magasin d'armement de Yimdi à 20 km à l'ouest de Ouagadougou, indique ce communiqué qui ajoute que les auteurs de cette tentative ont été identifiés comme des éléments récalcitrants de l'ex-RSP, l'unité qui est auteur d'un putsch raté en septembre dernier. Les autorités burkinabées soulignent que les assaillants ont pu s'emparer d'armes et de munitions avant de prendre le large. On retourne maintenant en Guinée-Bissau. Les députés du principal parti d'opposition et ceux exclus du PAIGC, la formation au pouvoir, se sont réunis hier au Parlement malgré la suspension des travaux par le président de l'Assemblée. Le pays s'enfonce dans une nouvelle crise, John Lindon.
La séance a démarré à huis clos sur ordre du président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kazama. 41 députés du Parti de la Rénovation sociale, la formation d'opposition et 15 dissidents du PAIGC étaient présents. Ces 15 députés ont été exclus du parti au pouvoir pour s'être abstenus lors du vote sur la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre Carlos Carrera. Une nouvelle séance lundi a failli tourner à la foire d'empoigne. Depuis hier, le pays a de fait deux parlements et un gouvernement. La veille, l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira, limogé en août 2015 par le chef de l'État José Mario Vaz, a dénoncé un coup d'État orchestré à partir de la présidence. Il avait appelé les militants à s'éteindre prêts à défendre la victoire conquise par les urnes. L'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne, très inquiètes, appel au dialogue dans ce pays instable qui a déjà connu plusieurs coups d'État.
À Madagascar, le parti du président malgache Eri Rajao Narimam Pianine, le HVM, a remporté une large victoire aux élections sénatoriales du mois dernier selon les résultats officiels définitifs rendus par la Haute Cour constitutionnelle. Le HVM a remporté au moins 4 sièges sur 7 dans chaque province du pays, confirmant les prévisions des observateurs qui s'attendaient à une écrasante victoire du parti de chef de l'État.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
On passe maintenant à l'actualité aux États-Unis. Washington a commencé hier à appliquer les nouvelles règles plus contraignantes concernant les exemptions de visa pour les personnes qui ont séjourné en Iran, en Irak, en Syrie ou au Soudan. Des précisions avec Eric Manirakiza.
Le département de la sécurité intérieure a décidé que les visiteurs souhaitant venir aux États-Unis et qui ont séjourné en Iran, Irak, Soudan ou en Syrie depuis 2011 auront à présent besoin d'un visa. Les personnes qui ont la double nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne devront aussi solliciter un visa. Cette contrainte administrative devient obligatoire même si ces personnes viennent de la quarantaine de pays exemptés de visa. Ces nouvelles mesures ont été décidées dans la foulée des attentats de Paris en novembre dernier et de San Bernardino début décembre. La loi votée par le Congrès a été signée par le président Barack Obama. Environ 20 millions de personnes viennent aux États-Unis chaque année sans visa pour des séjours d'au moins de 90 jours, dont quelques 13 millions d'Européens qui doivent remplir en ligne le formulaire ESTA.
Et puis le Congrès, les parlementaires républicains au Congrès font pression pour l'adoption de sanctions américaines d'ampleur plus dures contre Téhéran. Timothée Donangmaï.
Pendant que les sénateurs se dépêchent de quitter Washington avant la grande tempête de neige que l'on prédit pour la région cette fin de semaine, plusieurs républicains ont parlé de l'Iran. Parmi eux, la sénatrice Kelly Ayotte.
Nous devons tenir tête à ce régime iranien. Leurs tests illégaux de missiles balistiques et leur soutien continu à la prise d'otages. Nous allons imposer des sanctions plus dures.
De son côté, le sénateur John McCain, l'adversaire républicain de M. Obama en 2008, a accusé le président d'être tellement attaché à l'accord sur le nucléaire iranien qu'il a fermé les yeux sur les provocations de l'Iran.
Ce président et ce secrétaire d'État font tout pour plaire aux Iraniens. Peu importe ce que ces derniers font, peu importe l'offense qu'ils vont subir. Messieurs Obama et Kerry ne feront absolument rien. Ce sera donc au Congrès d'agir.
Les parlementaires républicains n'ont pas précisé les mesures punitives qu'ils envisageaient à l'encontre de l'Iran. Mais on se rappelle que dimanche dernier, le président Barack Obama a salué la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien signé l'an dernier avec Téhéran par les États-Unis et leurs partenaires du P5+1.
Au terme de cet accord sur le nucléaire que nos alliés, partenaires et nous-mêmes avons conclu l'an dernier, l'Iran ne mettra pas la main sur une bombe nucléaire. Nous sommes parvenus à ce progrès historique grâce à la diplomatie sans recourir à une autre guerre au moyen nourrir.
En tout état de cause, pour l'adoption de sanctions, toute proposition de loi des républicains devra bénéficier du soutien d'un certain nombre de sénateurs démocrates pour être approuvée. Or, l'an dernier, le rejet de l'accord sur le nucléaire a été bloqué au Sénat quand la minorité démocrate a empêché les républicains d'obtenir la majorité des deux tiers requises.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.